L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Costet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce tout nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle que c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière. Et cette semaine, je suis en compagnie pour animer cette émission de Bérénice Deville. Bonjour Bérénice.
Bonjour Fabrice.
Alors on va s'intéresser à une question, une nouvelle fois brûlante en tout cas. Les parlementaires sont en train de faciliter l'accès, les donations pour permettre une transmission plus rapide du patrimoine vers les plus jeunes. Et on va se poser cette question, quand et comment organiser sa transmission pour ses enfants et petits-enfants?
Mais de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle de transmission? Comment et quand organiser sa transmission? Faut-il forcément être détenteur d'un énorme patrimoine pour s'y intéresser? Qu'en est-il de la transmission d'entreprise? Où en est-on en fait sur les successions? Beaucoup de questions qu'on se pose, que nous allons nous poser justement, et nous sommes accompagnés pour y répondre de deux spécialistes. Donc Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et compagnie. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Et maître Julie Voisin-Chaussade, notaire à Paris.
Bonjour.
Bienvenue.
Voilà, le programme donc est chargé. L'Hebdo Patrimoine spécial transmission, c'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On commence donc cette émission avec vous, Audrey Ferry, donc responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie. Bordier et compagnie, c'est une banque privée assez discrète et pourtant internationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot avant de démarrer?
Oui, avec grand plaisir. Alors, Bordier & Compagnie, c'est un groupe qui a été créé en Suisse en 1844. Il est détenu et dirigé par la cinquième génération de la famille Bordier. Et donc, nous sommes spécialisés en gestion de fortune. En France, nous avons créé la filiale en 2006. Nous exerçons sous forme d'une société de gestion et donc nous accompagnons nos clients dans le cadre de leurs problématiques patrimoniales.
Voilà, des bureaux à Genève, Singapour, à Paris, bien évidemment, 15 milliards d'encours sous gestion, enfin gérés, 300 personnes dans le monde, vous l'avez dit. Et puis, au niveau de vos clients, justement, on est sur quel type de clientèle? Qui peut faire appel à vous?
Alors, on entre dans... Dans la banque Bordier avec 1 million d'euros à placer. La clientèle, c'est à peu près un tiers de familles fortunées, un tiers de dirigeants actifs et puis un tiers de chefs d'entreprise qui ont cédé leur société.
Voilà, alors ça c'est intéressant puisque ils sont soit déjà cédés, soit ils sont en cours d'activité et donc ils ont cette problématique, on le verra tout à l'heure, de transmission. Là on est dans la transmission d'entreprise. Néanmoins, avec des patrimoines comme ça, on peut se dire on a forcément cette question, si on a des héritiers, si on a des enfants, voire des petits-enfants, est-ce qu'on organise tout de suite sa transmission? C'est une brique essentielle du patrimoine.
Ah oui, c'est sûr que la transmission du patrimoine, c'est vraiment une question essentielle dans le cadre d'une logique patrimoniale globale et familiale. Et on doit vraiment avoir une approche au cas par cas, selon la situation de chaque client, de sa famille, de la composition de son patrimoine et de ses objectifs pour l'accompagner.
Alors justement, sur ce plateau également, maître Julie Voisin-Chaussade, vous êtes donc notaire à Paris. Et cette problématique, c'est vrai que j'ai une première question. J'ai le sentiment qu'elle est peut-être encore plus aiguë en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine crise sanitaire, ça n'a échappé à personne. Et qu'on se pose forcément des questions, rapport à la maladie, à la vie, à la mort et effectivement la transmission. Est-ce que, première question, maître, vous avez vu depuis un an des gens qui s'intéressent peut-être un petit peu plus à cette problématique?
Oui, effectivement, c'est certain que la situation sanitaire a amené les gens à se poser beaucoup plus de questions. Et nos instances professionnelles ont aussi tout de suite organisé, dès le premier confinement, des permanences téléphoniques pour justement répondre à cette inquiétude qui était qui était très présente et très forte sur qu'est-ce qui se passe s'il m'arrive quelque chose demain au niveau de la transmission de mon patrimoine et puis je vais laisser mes enfants, qu'est-ce qui va se passer exactement. Donc oui, effectivement, la situation sanitaire a amené les gens à se poser beaucoup plus de questions et en tant que notaire et ingénieur patrimonial, c'est vrai qu'on est l'interlocuteur privilégié entre guillemets en première ligne où on pense un petit peu à nous et nos instances font qu'elles communiquent beaucoup là-dessus.
Est-ce qu'il y a un schéma classique? Qu'est-ce qui se passe voilà, si on ne s'organise pas à défaut? Qu'est-ce qui va se passer si je disparais? On découvre mes ayants droit. Quel est le droit commun, on va dire?
Alors, ce qui va s'appliquer, c'est le code civil. Mais justement, notre rôle, quand on accompagne nos familles et que nous sommes aux côtés de nos familles qui vont venir nous consulter, c'est justement de leur préciser la situation, qu'est-ce qui se passe. Enfin, on fait déjà un état des lieux de toute leur situation familiale, matrimoniale et au niveau de leur patrimoine. D'accord, ça, c'est la première étape. Et puis, après, on va regarder, leur expliquer surtout qu'est-ce qui se passe si effectivement je ne fais rien, c'est le code civil qui s'applique. Et puis, par la suite, tout ce qu'on peut organiser ensemble, et puis surtout leurs objectifs. Notre rôle, quand on accompagne les familles, c'est déterminer les objectifs en fonction de la transmission qui est souhaitée, et puis de les hiérarchiser aussi.
Alors justement, première question, Bérénice l'avait posée dans l'introduction. Là, on parle Bordier et compagnie, bon, banque privée, un certain patrimoine. Mais est-ce que justement, on a besoin d'avoir un gros patrimoine pour commencer à faire appel à un notaire et commencer à organiser finalement sa transmission?
Alors, non, pas du tout. Il n'y a pas de seuil du tout de patrimoine à avoir. Il faut vraiment se poser la question. Mais justement, par mon métier, j'ai la chance d'intervenir dans les étapes importantes de nos clients et des familles, aussi bien pour un contrat de mariage, pour une acquisition. Et à cette occasion-là, il faut envisager et se faut poser la question de la transmission. Et il n'y a absolument pas de seuil pour se poser la question. Il faut au moins savoir ce qui se passe si je fais quelque chose ou si je ne fais rien. Et notre rôle, toutes les deux, c'est vraiment d'informer les gens sur... voilà, il n'y aura pas obligatoirement quelque chose à faire, mais au moins de savoir ce qui se passe si demain je disparais. Voilà comment je laisse les personnes qui me sont proches.
Audrey Ferry, là on peut imaginer que vos clients, peut-être déjà plus éduqués, ils ont déjà une idée ou ils ont des idées préconçues quand ils viennent vous voir pour parler de ces sujets. Comment ça se passe là aussi? Comme disait Julie, vous faites un état des lieux du patrimoine et en fonction de leur demande, vous allez commencer à préconiser des solutions?
Oui, alors c'est vrai que c'est généralement, on commence par la base, c'est-à-dire faire l'état des lieux, comme on l'a dit, hein, mais c'est essentiel, leur situation personnelle, professionnelle, patrimoniale, comment est composé le patrimoine, mobilier, immobilier, voilà, c'est vraiment très détaillé. L'aspect assurance-vie, est-ce qu'il y a des assurances-vie, est-ce qu'il y a des clauses bénéficiaires, comment elles sont rédigées? Donc il y a tous ces sujets-là qui doivent vraiment être détaillés. Ensuite, on va en tirer une analyse et selon les objectifs qui sont vraiment différents entre chaque client. Hein, ça dépend vraiment. On a des familles où on a, par exemple, pas d'enfants. Bon, bah, à qui on va transmettre? C'est une question. On a une famille où on a des enfants qui s'entendent bien ou pas bien. Donc là aussi... Quel outil utiliser et comment bien structurer et bien sécuriser la transmission. Et puis, on peut aussi avoir des problématiques plus complexes de familles recomposées, par exemple, ou alors avec un enfant handicapé à protéger de manière un peu plus particulière, donc organiser une transmission un peu plus spécifique. Enfin, voilà. Et puis, on a aussi maintenant de plus en plus d'international dans les familles, hein, des enfants qui vont faire leurs études ou travailler à l'étranger. Et donc, là aussi, il faut prendre en compte cet aspect sur le droit civil, le droit fiscal à mettre en œuvre dans ces situations-là.
Ouais, donc autant de portraits, de situations. Pour prendre le cas, alors le plus simple, en tout cas le plus répandu, je pense, pour ceux qui nous écoutent, c'est le cas de l'assurance-vie. Je crois qu'il faut une attention, il faut revoir souvent sa clause bénéficiaire et même peut-être la retravailler par rapport au contrat classique qui est de mémoire, hein, à défaut mes héritiers, vous allez nous la citer parce que vous la connaissez bien sûr mieux que moi.
Oui, enfin la clause bénéficiaire.
Non, il y a une clause standard. Voilà,
la clause standard, exactement, que vous avez sur le formulaire qui va vous être proposé par la compagnie d'assurance, en règle générale, c'est mon conjoint à défaut mes enfants. Voilà. Classiquement. Mais effectivement, ça, c'est vraiment un point très particulier à travailler ensemble en fonction. Il faut faire vraiment du sur-mesure. C'est comme le disait Audrey tout à l'heure, c'est que quand on fait un état du patrimoine des personnes, c'est une question qu'on va aborder tout de suite, de savoir est-ce que vous avez souscrit un contrat d'assurance vie et de voir la clause bénéficiaire. Parce qu'il y a vraiment des choses à aménager en fonction de la situation familiale particulière. Et bien souvent, c'est dommage de ne pas profiter de cet élément de levier pour adapter la situation du contrat d'assurance vie à la situation familiale. Et ne pas prendre effectivement la clause bénéficiaire. Donc vous avez la possibilité de faire appel effectivement au notaire, où on va rédiger une clause, encore une fois, sur mesure, qui soit par testament, soit précisée dans un document où on notifie à la compagnie d'assurance, donc bien par lettre recommandée, mais leur préciser que la clause bénéficiaire, ce n'est pas la clause type, mais ma clause bénéficiaire est détenue dans le coffre de l'étude Intel.
Voilà, et je peux du coup, effectivement, comme vous disiez, protéger peut-être quelqu'un qui en a plus besoin qu'un autre, ou même, voilà, famille recomposée aussi. Est-ce que, du coup, l'assurance vie échappe aux règles classiques de l'héritage ? Est-ce qu'on peut, comme ça, orienter sa transmission vers quelqu'un en particulier ?
Non, à mon sens, vous pouvez... Effectivement, classiquement, on dit que le contrat d'assurance vie ne fait pas partie de la succession. D'accord ? C'est juste, enfin, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Il faut quand même avoir quelques bémols à ça, puisque vous avez des exceptions qui font que si jamais vous avez des clauses qui sont manifestement exagérées, elles vont faire partie de votre succession. Il va falloir vérifier que vos enfants, puisqu'en droit français, vous n'avez pas la possibilité de ce qu'on appelle déshériter des enfants. Donc il faudra s'assurer que, si vous voulez, le contrat d'assurance vie ne permet pas d'exclure, par exemple, totalement ses enfants, même si les tribunaux ont quand même une certaine tendance actuellement à ne pas requalifier ces primes qui auraient pu être versées de manière très importante sur un contrat d'assurance vie. Et donc, effectivement, que ce contrat d'assurance vie suit son propre chemin sans suivre les règles du Code civil.
Voilà, écoutez, en tout cas, c'est Bérénice.
Oui, non, ça veut dire qu'en général, ce sont les enfants délaissés qui font appel ou qui sont les personnes qui font appel. Oui.
Comme le disait Audrey tout à l'heure, c'est souvent effectivement dans des cas de famille recomposées. Puisque quand on est dans une famille entre guillemets classique, si vous voulez, quand vous avez un conjoint et des enfants, on a plus tendance à avoir une entente, une bonne entente, ou entre guillemets une entente cordiale parce qu'on a affaire à son père ou à sa mère. Dans une famille recomposée, c'est effectivement moins le cas. Et donc, dans ces cas-là, on voit un peu plus souvent des recours pour contester tout simplement la dévolution de ce contrat d'assurance vie.
Voilà, les ayants droit qui se sentiraient peut-être lésés. On a parlé effectivement du timing, de la richesse et du patrimoine qu'il fallait avoir ou pas. On peut commencer, on l'a compris, assez tôt. Justement, au niveau du timing, est-ce qu'il y a un événement de vie, mariage, premier bébé, dans lequel il faut aller acter ça et aller voir son notaire ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, à mon sens, il n'y a pas d'événements particuliers qui font qu'il va falloir se poser la question de la transmission du patrimoine. Et effectivement, encore une fois, on a la chance de croiser nos familles à des événements particuliers où ils doivent avoir recours à un notaire ou à un ingénieur patrimonial ou tout simplement quand on va ouvrir un compte bancaire. Donc il n'y a pas d'événement particulier. Après, il y a des inquiétudes qui se soulèvent dans des événements particuliers. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la situation sanitaire a amené les gens à se poser beaucoup de questions, beaucoup plus de questions qu'à la normale. Parce que, tout simplement, on a, à mon sens, enregistré le facteur décès pouvait arriver beaucoup plus tôt que ce qu'on avait prévu. D'accord ? Donc, il n'y a pas, encore une fois, pas d'événement particulier, mais c'est vraiment une question. Et en tant que notaire, c'est quelque chose auquel, en tout cas, moi, je fais attention pour un contrat de mariage, pour une acquisition. À la base, ils ne sont pas du tout venus nous voir. Ils sont obligés de nous voir pour une acquisition parce que c'est un acte qu'on doit publier au service de la publicité foncière. Donc, ils sont obligés de venir nous voir. Mais à cette occasion-là, il faut en profiter pour leur dire, voilà, est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Ça ne sera pas obligatoirement une question de transmission de patrimoine. On pourra mettre d'autres éléments, comme par exemple, j'ai des enfants mineurs. S'il nous arrive quelque chose, parce qui s'occupe d'eux ? Est-ce que je peux désigner un tuteur ? Qu'est-ce que je peux faire pour envisager leur protection au niveau de leur personne, mais aussi au niveau de leur patrimoine ? C'est vraiment des questions à soulever et c'est notre rôle, c'est tout simplement d'informer au maximum parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une information très variée et d'avoir accès à beaucoup de médias et donc il ne faut vraiment pas hésiter à le faire.
Et alors, on parle de transmission, on parle de succession de patrimoine. Est-ce que la transmission peut être aussi des dettes, par exemple ? Et est-ce qu'on peut refuser une transmission ?
Tout à fait. Vous avez la possibilité. Alors, il y a différentes options quand vous êtes confronté à un décès. Soit vous pouvez accepter purement et simplement une succession. Soit vous avez la possibilité de l'accepter à concurrence de l'actif net. Donc, vous l'acceptez que pour le positif. D'accord ?
C'est possible de faire ça.
C'est possible de faire ça. Il y a toute une procédure particulière à faire avec un inventaire et des déclarations particulières auprès des tribunaux et des mentions de publication. D'accord ? Et vous avez la possibilité aussi de renoncer. D'accord ? Purement et simplement, à une succession, parce qu'effectivement, comme vous l'avez précisé, on se rend compte que les dettes sont manifestement supérieures à l'actif.
Et ça, est-ce qu'on le sait avant de le refuser ? On a le droit de savoir ce qu'on refuse ou non ?
Quand vous avez un décès, donc notre réflexe, en fait, on s'en rend compte un petit peu, c'est d'aller prendre attache avec un notaire. Le notaire, son rôle, ça va être de faire la photographie du patrimoine au jour du décès. Et donc, on va, avec cette photographie-là, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que est-ce qu'on a que de l'actif ou est-ce qu'on a des dettes ? Est-ce qu'elles vont être supérieures au passif ou pas ?
D'accord. Auquel cas, ça peut valoir le coup de refuser. Hein. C'est l'oncle d'Amérique qu'on croyait millionnaire et en fait a tout claqué au casino.
On peut avoir des mauvaises surprises.
Attention. On va dans un instant passer à la deuxième partie, justement, comment organiser et optimiser la transmission par des moyens différents. On va voir nue propriété, SCI, sur les assurances-vie, on a déjà un petit peu parlé. Quels sont aussi les freins qu'on peut connaître chez le cédant ? Voilà, à quel moment on transmet et peut-être les freins psychologiques qu'on peut avoir. On voit tout ça dans une deuxième partie. Première pause musicale, on se retrouve juste après avec nos invités. We'll be right back. Allez, c'est bon. Et on vient d'écouter Patrick Juvet, Bérénice.
Et oui, un hommage, puisqu'il nous a quittés le 1er avril, la semaine dernière. Où sont les femmes?
À tout de suite pour
l'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Un spécial transmission ce matin, comment transmettre à ses enfants et petits-enfants avec nos deux spécialistes de référé, responsables de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie et Julie Voisin-Chaussade, notaire à Paris. Alors on a fait un premier état des lieux, comment s'intéresser à sa transmission. On a vu que c'était en tout cas un sujet de préoccupation pour les Français, d'autant plus avec la crise sanitaire qu'on connaît. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec justement, pas vos clients, Audrey, puisque évidemment, chez Bordier, secret professionnel, on ne saura rien. Des stars, peut-être, qui sont chez vous.
Enfin, je tiens quand même à préciser que tu as essayé d'avoir des infos pendant la musique.
Que je n'ai pas marché. Donné.
Hein. Oui, ça n'a pas marché.
Voilà, en tout cas, on a décidé de faire un prochain hebdo sur les droits des contrats et des droits d'auteur, propriété intellectuelle, propriété artistique. Ça risque d'être long, donc on ne le fera pas aujourd'hui. En revanche, on peut déjà organiser effectivement son patrimoine alors via des moyens qu'on a connus ou qu'on connaît ou dont on a entendu parler. Je pense notamment à se constituer des sociétés civiles immobilières quand on a notamment des immeubles, des biens immobiliers. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce qu'on peut l'envisager dès qu'on a une ou plusieurs résidences principales, secondaires?
Alors, on a plusieurs outils pour transmettre un patrimoine. On peut citer, donc on l'a déjà évoqué, l'assurance vie, qui permet de transmettre un patrimoine financier par la rédaction de la clause bénéficiaire, avec un régime fiscal spécifique qui est quand même très avantageux, notamment quand on fait des versements avant ses 70 ans. On a également le démembrement de propriété. Donc quand je fais une donation, je ne suis pas obligée de donner la pleine propriété du bien. Si c'est un bien immobilier, par exemple, je peux donner juste la nue propriété du bien, conserver l'usufruit. Donc, en pratique, ça veut dire je donne juste la propriété des murs. Mais l'usufruit, c'est un droit que je me réserve toute ma vie. C'est le droit d'habiter le bien ou alors le droit de mettre un locataire et de percevoir des revenus toute ma vie. Donc, c'est intéressant parce que fiscalement, on va être taxé uniquement sur une quote-part de la valeur du bien qui va dépendre de l'âge de l'usufruitier, donc de la personne qui va donner le bien. On a un barème qui est fiscal et plus on est jeune lorsque l'on donne, moins ça va coûter cher en termes de droits de donation.
C'est intéressant aussi, Audrey Ferry, puisque on pense à tous ceux qui sont assujettis à l'IFI. En tout cas, l'assiette du coup diminue si on a donné la nue propriété de son bien.
Alors malheureusement, ça ne fonctionne pas. Pour l'IFI, il faut donner la pleine propriété du bien. C'est l'usufruitier qui va être redevable de l'impôt sur la fortune immobilière, sur la valeur de la pleine propriété du bien. S'il donne que la nue propriété, ça ne fonctionne donc pas.
D'accord. Donc il faut donner toute la pleine propriété et dire à ses enfants, je reste encore un petit peu ou je deviens ton locataire.
Okay. Et la troisième technique que vous évoquiez, Fabrice, c'est effectivement, pourquoi pas créer une société civile immobilière pour acheter du patrimoine immobilier locatif, notamment. Vous allez pouvoir donc créer une SCI, vous faites un petit capital social. Donc c'est le montant que vous devez mettre pour démarrer la société. Vous pouvez associer les enfants. Donc, par exemple, je ne sais pas, on va dire une famille, le père, la mère ont chacun 20%. Ça nous fait 40%. Et puis, ils ont trois enfants. On met 20% pour chaque enfant. On fait un capital social, par exemple, de 10 000 euros. Chacun doit apporter donc 2 000 euros. Ça nous fera les 10 000 euros de capital. On achète un bien immobilier. On le loue. La SCI a fait un emprunt bancaire auprès d'une banque et le loyer va rembourser les échéances du prêt. Et au bout de 15 ans, par exemple, si c'est la durée du prêt, le bien immobilier est totalement payé et les enfants ont donc bien 20% chacun d'une SCI, Société Civile Immobilière, sans avoir reçu de donation. Là, c'est vraiment le mécanisme du loyer qui vient rembourser l'emprunt.
Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on est tous des associés. Parce qu'on est, donc s'il y en a qui disparaissent, que deviennent leurs parts ?
Alors, s'il y a un associé qui disparaît, alors ça dépend là, si c'est un des parents ou un des enfants.
Bon, on va dire les parents. Allez.
Les parents. Alors, s'ils n'avaient pas transmis la nue propriété de leur part, parce qu'on aurait eu cette possibilité, quand on transmet la nue propriété des parts, au décès de l'usufruitier, l'usufruit retourne vers la nue propriété, on devient plein propriétaire et sans fiscalité, sans droit de succession. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que l'usufruit ne sera jamais taxé ni au droit de donation ni au droit de succession. Si cette donation n'avait pas été réalisée, alors les parts se retrouvent dans l'actif de succession, dans la succession qui sera réglée par le notaire et sont répartis au profit des différents héritiers. Donc là, en l'occurrence, ben, le conjoint survivant et puis les trois enfants.
Voilà. Julie, voisin chaussade, quand on entend ça, on se dit mais c'est la formule magique, ça, pour évader le fisc ou contourner tous les droits de succession qui sont très forts. Et pourtant, Audrey l'a bien dit, c'est réservé plutôt à ce qui est investissement locatif. Il faut quand même qu'il y ait un objet social. Je crois que ce n'est pas très recommandé pour sa résidence principale.
Alors, la donation avec réserve d'usufruit, effectivement, on a tendance à dire que, enfin, de ne pas qu'elle n'est pas pour objet la résidence principale. Tout simplement parce que l'usufruitier et les nus propriétaires vont avoir des droits. Et si demain, vous décidez de vendre votre résidence principale, vous devez avoir l'accord de tous les nus propriétaires. Et puis, comme vous, ça constitue votre résidence principale. Vous n'aurez pas d'impôt de plus-value immobilière à payer lors de cette cession. Or, les nus propriétaires, oui. Donc, ça peut être un frein pour eux à se dire, ben non, j'ai pas du tout envie. Donc, c'est juste, on a tendance à ne pas le recommander, tout simplement parce que ça va limiter votre liberté de faire ce que vous souhaitez de votre résidence principale. Et avec l'allongement de la vie aujourd'hui, on peut avoir des dépenses de santé auxquelles on n'avait pas du tout envisagé le jour où on a fait la donation. Donc, effectivement, c'est pas forcément notre conseil premier de faire une donation avec réserve d'usufruit sur la résidence principale.
J'ai une autre question concernant l'allongement de la durée de la vie. Hein, ça n'échappe à personne qu'on peut hériter relativement tard si on a des parents qui vont vers leurs 90, 95, voire 100 ans. À ce moment-là, est-ce qu'on peut renoncer à une transmission pour que ça aille directement aux petits-enfants?
Oui, tout à fait. Justement, vous évoquiez le fait qu'on hérite à des âges plus tardifs. Effectivement, dans les années 80, on héritait en moyenne à 40 ans. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, c'est passé aux alentours de 48-50 ans. Donc effectivement, ça a bien changé. Pour répondre à votre question, effectivement, vous avez la possibilité donc de renoncer à la succession, alors même que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est largement bénéficiaire, il n'y a que de l'actif, il y a très peu de dettes ou des dettes qui sont vraiment communes, les impôts, etc. Rien qui ne ferait qu'elle soit supérieure à l'actif. Et donc, en fait, en renonçant, aujourd'hui, désormais, vos enfants peuvent vous représenter. C'est-à-dire que votre mère décède, vous renoncez à la succession, vous renoncez à percevoir donc, le patrimoine de votre mère. Et donc, c'est vos propres enfants qui vont hériter à votre place, comme si vous n'existiez pas. D'accord. Le fait de faire ça, donc il faut prendre certaines précautions, parce que si, par exemple, vous avez des enfants mineurs, il faudra adresser une requête au juge des tutelles pour qu'il donne son accord pour accepter cette succession. D'accord. Il y a certaines petites précautions, mais effectivement, c'est des, entre guillemets, des schémas qu'on évoque aujourd'hui, puisqu'on arrive à un des âges où, effectivement, plus forcément un besoin de recevoir un patrimoine parce qu'on est déjà bien installé et on préfère que ça saute une génération pour directement que ça soit transmis aux petits-enfants pour qu'eux puissent s'installer.
Est-ce qu'il y a des allègements supplémentaires
Alors, il n'y a pas d'allègement supplémentaire. Quand vous héritez par représentation, vous bénéficiez. L'abattement sera divisé en fonction du nombre de personnes qui vont venir à votre place. Et puis, donc, ce n'est pas un allègement particulier. Mais malgré tout, ça va être une économie, entre guillemets, fiscale, puisque au lieu d'hériter une première fois de ma mère, puis de transmettre à mes enfants, on passe directement, on saute une génération. Vous avez la possibilité donc de faire ça. Et également, on a la même possibilité avec ce qu'on appelle une donation partage transgénérationnelle, où là, un parent qui décide de transmettre. Alors, ça peut être totalement ou pour partie à ses enfants et à ses petits-enfants. Et ça, ça s'inscrit également dans un but de transmettre directement, d'aider les petits-enfants, tout simplement, encore une fois, parce que la durée de vie s'est allongée.
Justement, on reste sur cet accompagnement sur plusieurs générations. On va s'intéresser aux chefs d'entreprise. Et il y en a, alors pour le coup, ce n'est pas un secret de le dire, vous nous l'avez dit, de nombreux chez Bordier et compagnie qui sont en constitution de patrimoine ou qui sont en train d'essayer de le transmettre. Évidemment, cette transmission, notamment quand c'est son entreprise, son troisième, son quatrième bébé, souvent, ça pose pas mal de sujets. Alors évidemment, on peut transmettre à ses enfants s'ils sont qualifiés, mais le sont-ils toujours? Est-ce qu'ils sont bien préparés? Est-ce qu'ils ont envie aussi? Ce sont autant de sujets. Quand on parle de transmission aussi, c'est tout un pan d'activité que vous avez à gérer.
Ah oui, effectivement. Une transmission, c'est une démarche qui va susciter beaucoup de réflexion. Ça prend du temps. C'est pas en un seul rendez-vous qu'on va tout organiser, tout structurer. Non, pas du tout. C'est vraiment une démarche un accompagnement dans le temps. Et effectivement, la première question, c'est à qui je vais transmettre. Est-ce que j'ai un enfant qui souhaite reprendre? Est-ce que j'en ai plusieurs? Ou alors aucun. Donc déjà, il faut voir si quelqu'un a la compétence, l'envie de poursuivre l'entreprise familiale, effectivement.
Ouais, et y a tous les cas, évidemment, ceux qui ont envie, ceux qui ont moins bien envie, ceux qui sont préparés ou pas. Là aussi, la question, quand on est dans cette période un peu particulière, est-ce que ça a aussi été un accélérateur? Il y a des gens qui sont venus vous voir pour vous dire, l'entreprise, moi, je commence à être un petit peu ancien maintenant, ou j'ai envie de lever le pied. Est-ce que ça a été un catalyseur, cette crise sanitaire?
Alors, on peut dire que ça peut être une opportunité pour certaines entreprises. Alors, bien sûr, ça dépend de leur secteur d'activité. Mais certaines entreprises ont eu des baisses de chiffre d'affaires. Et donc, la valeur de la société a forcément été un peu réduite. Et quand on parle de transmission d'une entreprise, les droits de donation, ils vont être calculés notamment sur la valeur de cette société. Donc quand on veut transmettre à un enfant ou à plusieurs enfants, ça peut être une opportunité de se dire, ma valeur est plus basse, donc c'est peut-être le moment de transmettre à mon enfant, car ça coûtera moins cher en termes de droits de donation.
Et chez Bordier et compagnie, justement, est-ce que, alors vous donnez des conseils purement techniques, ou est-ce que vous faites parfois du psychologique avec vos clients concernant justement quel enfant, est-ce que c'est le moment de céder ou pas?
Alors oui, il y a forcément cette partie qui doit être prise en compte. Parfois, on a aussi des dirigeants qui ont peur de passer ce cap de transmettre, se disent non, mais moi, c'est comme mon enfant, ma société, je l'ai créée, ça fait 40 ans que je travaille dedans, et ils ont du mal, effectivement, à passer à autre chose, parfois peur de perdre un statut social, le lien avec l'entreprise, donc c'est pas évident. Et puis on a aussi des aspects plus complexes. Il y a des personnes qui vous disent j'aimerais beaucoup transmettre, mais en même temps, je ne veux pas trop gâter mes enfants. Je veux qu'ils aient le sens de l'effort, la valeur du travail. Je ne veux pas leur mâcher tout le travail. Donc on a tous ces aspects qui sont à prendre en considération.
Et puis, il y a aussi les chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément d'héritiers. Et dans ce cas-là, ils peuvent même désigner, pourquoi pas, leurs propres collaborateurs. Je crois que ça se passe aussi.
Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a certains chefs d'entreprise qui décident, parce qu'ils n'ont pas de descendants, ils ont envie d'arrêter un peu de travailler. Et ils passent la main, effectivement, à leur manager, à leurs salariés. Et on peut faire des transmissions à ces salariés avec un dispositif qui est vraiment très intéressant fiscalement. Ça s'appelle le pacte Dutreil. Et en fait, ça va permettre de transmettre une entreprise en exonération à hauteur de 75% de la valeur de l'entreprise. Donc il n'y aura que 25% qui sera prise en compte pour le calcul des droits de donation. Et je vous rappelle que quand on est sans lien de parenté, on paye 60% de droits de donation. Donc c'est important. Donc là, l'effet avec le pacte Dutreil peut être intéressant. Et c'est aussi un outil qui est utilisé par certains chefs d'entreprise pour fidéliser des cadres, fidéliser des salariés, de se dire, je donne quelques actions de la société avec le pacte Dutreil, puisque ça permet d'avoir une fiscalité plus douce.
Voilà, et peut-être de rester aussi à à distance, un président honorifique pour avoir un œil sur sa société. En tout cas, les solutions existent et merci de les avoir partagées. Évidemment, on renvoie à tous vos spécialistes. Dans un instant, on va s'intéresser à tout ce qui est nouvelles dispositions législatives et où en est-on sur les donations. C'est juste après ça, on se retrouve pour l'hebdo spécial transmission.
Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Heard me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore.
Et c'était Stevie Wonder, For Once in My Life. Ça fait du bien, cette petite musique.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Comment transmettre à ses enfants et ses petits-enfants avec Audrey Ferry, Julie Voisin-Chaussade, nos spécialistes du jour. On va s'intéresser dans cette dernière partie, mesdames, à tout ce qui est donation et donation partage. Avec, c'est le moment de transmettre, en tout cas pour ceux qui se posent la question et qui ont envie, on les encourage vivement à transmettre dès maintenant. Où en est-on de ce qu'on peut transmettre? Il y a eu beaucoup de changements entre le président Sarkozy qui avait ouvert un petit peu tout ça, on avait des montants qui avaient été beaucoup plus importants, qui ont été réduits ensuite sous le gouvernement Hollande. Maître Julie Voisin-Chaussade, où en est-on aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, vous avez la possibilité de donner par parent, par enfant, de 100 000 euros sans payer de droits de donation. 100 000 euros, toute catégorie de biens. D'accord? Donc ça peut être aussi bien des biens immobiliers, une œuvre d'art, de l'argent. Sauf que pour l'argent, on a un abattement supplémentaire qui est de 31 865 euros. Alors il y a certaines conditions à remplir, à savoir que le donateur, donc le parent, doit être âgé de moins de 80 ans et les donataires, les enfants ou les petits-enfants, doivent être majeurs pour bénéficier de cet abattement spécial qui s'ajoute aux 100 000 euros. Donc ça c'est pour les enfants. Pour les petits-enfants, vous avez un abattement général, donc c'est pareil, toute catégorie de biens et si jamais on ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cet abattement spécial de 31 865 euros, un même abattement pour les petits-enfants, donc qui est 31 865 euros. Donc ça, c'est fiscalement les abattements qui sont aujourd'hui applicables. Comme vous l'avez évoqué, ces abattements ont pas mal changé ces dernières années. On est monté jusqu'à 159 000 euros par enfant, par parent. Donc, ce qui aujourd'hui change un petit peu la donne puisqu'on est à 100 000 euros. Et puis également, il y a un deuxième dispositif, c'est que cet abattement de 100 000 euros se, entre guillemets, régénère tous les 15 ans. D'accord ? C'est-à-dire que tous les 15 ans, j'ai la possibilité de donner cette somme-là, ce qu'on appelle en franchise de droit, sans payer de droit de donation. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le rappel fiscal, donc c'est 15 ans. Cette durée a été réduite jusqu'à 6 ans, et puis elle est remontée jusqu'à 10 ans, et aujourd'hui, tous les 15 ans. Donc c'est vrai que c'est un frein chez certaines personnes, la fiscalité, alors même qu'en tant que notaire et ingénieur patrimonial, on se préoccupe beaucoup du civil aussi, parce que c'est vraiment la priorité première, c'est quand on est confronté au règlement d'une succession, le fiscal... Oui, effectivement, ça a une incidence qui est non négligeable, ça c'est certain. Mais le civil, savoir comment sont répartis les biens et quelles conséquences ça va avoir, ça veut vraiment un point très particulier et qui doit orienter nos conseils.
Alors justement, pendant la pause, vous me disiez surtout ne pas oublier la notion de donation-partage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la grande différence entre donation et donation-partage ?
Oui, bien sûr. Alors, je pense que le plus simple, c'est peut-être de prendre un exemple. Donc, imaginons, je souhaite faire une donation à deux enfants. Je leur donne 50 000 euros chacun. Et le premier l'utilise, par exemple, pour investir dans la bourse. Il fait des bons placements ou alors il est bien conseillé. Et au jour de mon décès, les 50 000 euros sont devenus, par exemple, 500 000 euros. Le deuxième enfant, lui... ben voilà, c'est un grand voyageur, un grand rêveur. Il fait un tour du monde avec ses 50 000 euros et au moment de mon décès, ben, il a tout utilisé. Dans ce cas-là, on a un rapport. Alors là, ce n'est pas un rapport, c'est pas un rappel fiscal, mais là, c'est du civil, comme le disait Julie. On doit rapporter ce qu'on a reçu et on va devoir repartager de manière égalitaire entre les héritiers. Donc, ils ont eu chacun 50. La plus-value qui a été faite par le premier enfant est de 450. Ça veut dire qu'il va devoir partager par moitié son enrichissement avec son frère qui est parti voyager.
Donc, 225 000 euros qu'il doit à son frère.
Exactement.
Et au qui titre fait ce rapport ?
Alors, c'est le notaire qui s'en occupe dans le cadre du règlement de la succession. Et c'est un rapport civil. Voilà. Donc, il aura ça en moins dans la répartition, notamment des biens qui sont présents.
Ça paraît un peu injuste quand même, entre celui qui est parti se balader ou acheter une grosse voiture et l'autre qui a investi patiemment. Alors, comment on contre ça ? Comment on fait pour que ça ne se passe pas comme ça ?
Voilà. Heureusement. Alors, déjà, il faut venir nous voir. Et on vous expliquera que c'est beaucoup plus... sécurisant de faire ce que l'on appelle une donation-partage, puisqu'on va donner à chaque enfant la même somme et on ne reviendra pas dessus au moment du décès. Il n'y aura pas de rapport, il n'y aura pas ce calcul à faire. Peu importe, on ne revient pas dessus. Donc, celui qui a bien investi, tant mieux pour lui. Il ne devra pas compenser ce bon placement au profit de son frère ou de sa sœur qui a tout dépensé.
Et en fait, c'est juste un papier différent. Il n'y a pas de... Ça change... Enfin, quelle est la différence entre les deux donations ?
Alors, une donation simple, elle peut être soit faite par don manuel, c'est-à-dire que je vous fais un virement bancaire, par exemple, ou alors c'est une donation qu'on fait chez un notaire. La donation partage, c'est un acte obligatoirement passé chez le notaire.
Voilà, en tout cas, un point à souligner et à connaître. Justement, nos députés sont en train de s'intéresser à tout ce qui est fiscalité applicable aux successions et aux donations en vue de l'alléger. Alors bon, les débats datent de mars, c'est ça ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été actées ou pas encore ?
Alors non, pour l'instant, ça n'a pas été acté. C'est une proposition au niveau de l'Assemblée nationale qui a été faite sous l'impulsion de M. Bruno Le Maire. Et donc, en fait, ce qui a été évoqué... Il y a plusieurs pistes, hein, mais c'est l'abattement de 100 000 euros. Il a été proposé qu'il soit monté à 200 000 euros. Et aussi, enfin, il y a plusieurs mesures, hein, mais les principales, c'est ça. Le délai du rappel fiscal, pas civil, hein, mais rappel fiscal que je vous indiquais tout à l'heure, de 15 ans, il a été proposé de le ramener à 2 ans, d'augmenter les donations de sommes d'argent, que je vous indiquais tout à l'heure, de les augmenter à 100 000 euros, sauf erreur de ma part, tous les 5 ans, et également de revoir le taux d'imposition. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un taux d'imposition passé les 100 000 euros, ce qui est reçu par chacun des héritiers est imposé de 5% allant jusqu'à 45%. Alors, je parle uniquement du taux d'imposition entre descendants, d'accord ? Comme l'indiquait tout à l'heure Audrey, quand vous êtes non-parent, c'est 60%. Donc là, uniquement au niveau des enfants. Et donc, il a été proposé d'augmenter aujourd'hui la tranche à 15% pour réduire cette fiscalité, tout simplement aussi parce que on s'est aperçu dans le passé, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure avec M. Sarkozy, que l'allègement de la fiscalité au niveau des donations et des successions, c'est des éléments qui vont favoriser la relance économique, puisqu'on transmet. Et bien souvent, c'est vrai qu'on voit chez les familles qu'on accompagne, ce qui est dommage, mais ce qu'on comprend parfaitement, que la fiscalité peut être un frein à envisager la transmission de son vivant, de son patrimoine. Voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Et puis, effectivement, il y a eu d'autres déclarations qui ont été faites par Monsieur le ministre au niveau de ce qu'on appelle les présents d'usage, à savoir c'est les cadeaux qu'il ne fallait pas hésiter. Voilà, il a évoqué ça sur une radio concurrente.
À faire, effectivement. Ouais. Alors, les présents d'usage, on rappelle, c'est la petite enveloppe de papier qu'on a sous le sapin ou à l'occasion d'un événement, c'est ça ? Il faut que ce soit à l'occasion d'un événement
alors,
un peu spécial.
Les critères, c'est... Alors, il faut que ça soit... Il n'y a pas de critères de montant ou de pourcentage par rapport à son patrimoine, mais ça doit être qualifié de cadeau. Donc, ça sera en fonction de chaque personne. C'est au cas, par rapport au montant. Mais effectivement, c'est des enveloppes qui vont être mises à des occasions particulières, Noël, anniversaire, et qui doivent, encore une fois, ne pas être des versements réguliers. Ça doit rester très...
Occasionnel. Très,
exactement. Occasionnel et mesuré.
Voilà. Et ça dépend, évidemment, de la fortune de son...
Exactement.
De son...
Papier ou de sa mamie.
Exactement, Bérénice. Bon. Bon, ça va plutôt dans le bon sens quand même. C'est bien finalement à une époque où on le sait, l'argent est un peu bloqué. Malheureusement, la pyramide des âges chez les anciens, c'est bien aussi d'avoir ce flux, cette transmission, ou du moins d'essayer de la favoriser. Parce qu'on sait bien que c'est quand même les jeunes ménages qui vont être plus appétants à la consommation.
Oui. Oui, enfin, effectivement, comme je vous le disais, on a remarqué que les mesures d'allègement de la fiscalité des donations et des successions étaient des facteurs de relance de l'économie, oui. Parce que effectivement, vous allez aider vos enfants, vos petits-enfants, et que ça va leur permettre effectivement d'injecter cet argent dans l'économie.
Voilà, on en sait un petit peu plus, même si le sujet est large, je pense qu'on reprendra cette émission et peut-être faire des focus, effectivement, avec des exemples précis, sans révéler, Audrey Ferry, aucun nom, bien évidemment.
Les clients.
Les clients ne veulent pas. En tout cas, on a été ravis de vous accueillir sur ce plateau pour discuter de ces sujets. En tout cas, on lance cet appel à tous ceux qui ont les poches pleines et on sait que les comptes débordent en ce moment. N'hésitez pas à transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, si vous voulez même optimiser les solutions sont là, on l'a vu, les SCI, la nue propriété, le démembrement. Allez voir vos notaires, allez voir vos conseillers patrimoniaux, ils sont là pour vous aider. Et on l'a compris aussi, Bérénice, c'est pas la peine d'avoir une énorme fortune pour commencer.
Exactement.
À s'y intéresser.
On peut s'y intéresser dès maintenant.
Eh bien, c'est chose faite. Un grand merci à Audrey Ferry. Je rappelle que vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie. Merci Audrey.
Merci Fabrice.
Et merci à maître Julie Voisin-Chaussade. Vous êtes notaire à Paris. Bérénice, c'est la fin de cette émission.
Oui. C'est passé trop vite.
Voilà, en tout cas, merci à notre ingénieur du son, Théo Venant-Hombourg. Merci à Sophie Bernard qui a préparé cette émission. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un prochain numéro de l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.